Je m'appelle Philippe Noubel, je suis franco-tchèque, mais j'ai surtout grandi en fait en ex-Union soviétique, surtout à Tachkent, donc aujourd'hui en Ouzbékistan, et à Odessa, en Ukraine. J'ai fait des études à Prague, à Paris, à Tokyo, à Pékin, et j'ai beaucoup travaillé surtout en Europe, en Asie centrale et puis en Asie. En Asie, c'est surtout en Chine, à Taïwan, au Népal, en Mongolie.
Quel est votre lien avec Taïwan, avec cette île?
C'est assez compliqué. En fait, ça vient d'abord de mon rapport à la Chine, comme beaucoup de gens qui... je viens de fêter mes 56 ans. Donc, quand j'ai commencé des études de chinois à Paris, Taïwan, c'était pas vraiment... Il n'y avait pas d'études, par exemple, taïwanaises, comme ça. On faisait du chinois pour aller en Chine. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Ce qui fait qu'on aperçoit Taïwan à travers la Chine, ce qui est bien sûr un regard très colonial. Mais c'est la même chose, par exemple, pour les gens qui découvrent l'Ukraine à travers la Russie. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de parallèles à ce niveau-là. Donc, moi, c'était mon cas. Je suis parti en Chine d'abord en 95-96. J'ai fait des études de chinois et de mongol à Pékin. À l'époque, Taïwan, pour moi, dans ma tête, ça n'existait pas. Enfin, je savais que ça existait, mais disons que c'était pas un endroit où je voulais aller. Et après, je suis revenu en Chine de 2006 à 2016. Et je travaillais pour une ONG américaine. Je faisais de la formation pour des journalistes plus ou moins indépendants en Chine, pour des juges et des avocats. Et évidemment, quand on vit 10 ans en Chine, à cette époque-là, surtout, Taïwan, tout d'un coup, c'est quand même assez proche. Il y avait beaucoup de Taïwanais. Moi, j'étais surtout basé à Pékin, donc j'ai rencontré beaucoup de Taïwanais qui faisaient des affaires, des études, y compris des Taïwanais d'ailleurs francophones. Et donc, très naturellement, je suis allé pour la première fois, on peut dire, à Taïwan, de Pékin, en 2015. Et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'étrangers, parce que j'ai rencontré aussi à Taïwan, après où j'ai vécu 3 ans, beaucoup d'étrangers, y compris des Français, qui avaient vécu, étudié, travaillé en Chine, et ensuite qui découvrent Taïwan. Et je pense qu'on a tous, on souffre tous du même syndrome, qui est que quand on est à Taïwan, on se dit, si la Chine d'aujourd'hui avait 10% de la liberté, de la démocratie, qu'à Taïwan aujourd'hui, ce serait un pays génial, on voudrait tous y revenir. Et donc, quand on est comme ça marqué, et je peux dire même traumatisé par une expérience chinoise, dans mon cas de 10 ans, quand on est à Taïwan, on fait tout le temps dans sa tête l'aller-retour et on compare. Et on se dit, voilà, Taïwan, j'insiste beaucoup là-dessus, c'est un pays indépendant, où la majorité de la population est ethniquement et culturellement chinoise, mais bien sûr, ce ne sont pas des Chinois dans le sens politique du terme, et même dans le sens culturel, il y a évidemment une identité taïwanaise, ce qui est un grand débat, ce qui fait aussi l'attrait de Taïwan, c'est que c'est une identité qui est ouverte, qui est tout le temps remise en question, alors qu'en Chine, évidemment, c'est complètement gouverné et contrôlé par le Parti communiste, donc il y a juste une identité possible chinoise, alors qu'à Taïwan, c'est tout le contraire. Mais quand on a connu, enfin, quand on connaît les deux, on ne peut pas s'empêcher de tout le temps de comparer la Chine continentale et Taïwan, au niveau linguistique, culturel, politique.
Et si on compare alors avec cette première fois en 2015, il y a 10 ans à Taïwan, mm-hmm. avec l'expérience d'aujourd'hui, comment est-ce que vous observez ces 10 dernières années l'évolution de la société taïwanaise et de ce rapport évidemment avec Pékin ?
La question qu'on pose beaucoup aux étrangers qui vivent à Taïwan, c'est pourquoi, enfin surtout ces dernières années, pourquoi tu as choisi de t'installer à Taïwan, un des endroits les plus dangereux du monde, puisque ça avait été une des couvertures du Times Magazine avec l'Ukraine. Donc Taïwan et l'Ukraine, c'est supposé être les endroits les plus dangereux, ce qui est bien sûr d'abord complètement faux.
Parce qu'il faut d'abord souligner que vous avez choisi de vous y installer. Ensuite, dans cette connaissance après et cette comparaison avec la Chine, vous décidez de vous installer là-bas.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que mon premier voyage, c'est en 2015. Ensuite, pour des raisons professionnelles et personnelles, moi, je suis revenu en République tchèque. Donc, j'ai un petit peu coupé les ponts avec la région. Mais je suis revenu à Taïwan en 2019, sans savoir, bien sûr, qu'il y aurait une pandémie. Et donc, après, au début de la pandémie, j'étais à Taïwan. Je suis rentré à Prague et je suis revenu en avril 2023. En habitant pratiquement à plein temps pendant 2 ans à Taïwan. Maintenant, ça va être un peu plus moitié-moitié. Ce qui, je pense, a beaucoup changé, c'est qu'entre 2015, par exemple, et 2025, c'est que cette sensation d'un danger imminent, qu'on va être envahi par la Chine, c'est quand même beaucoup développé. C'est-à-dire que ce qui est, je pense, difficile à expliquer quand on n'a pas vécu à Taïwan, mais je pense aussi en Ukraine ou dans des pays en état de guerre. Évidemment, à Taïwan, c'est en état de guerre hybride. C'est pas une guerre déclarée. C'est qu'il y a une espèce de schizophrénie dont on souffre tous, c'est-à-dire qu'on soit taïwanais ou qu'on soit étranger, mais vivant à Taïwan. C'est-à-dire que je pense qu'au niveau, à un niveau intellectuel, on se dit qu'une invasion, et on peut discuter ensuite de la forme de cette invasion, parce que c'est pas forcément aussi une invasion directe, ça peut être un blocus. Intellectuellement, on sait que ce risque est là et qu'il augmente. Et on le voit, quand moi j'étais en 2019-2020 à Taïwan, j'étais au sud de l'île, dans la ville de Tainan, qui est l'ancienne capitale coloniale et culturelle, on voyait passer les avions de guerre chinois au-dessus de nos têtes. On voyait le profil des pilotes, donc c'était vraiment très très près, et les avions passaient si près de la ville de Tainan qu'on était obligé d'arrêter, par exemple, la conversation qu'on est en train d'avoir en ce moment. On devait s'arrêter 5 minutes parce qu'on pouvait pas s'entendre sur le toit, sur une terrasse, dans la rue. C'est à ce point-là. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on voit physiquement même, qu'on ressent. En même temps, je pense qu'au niveau des émotions, on peut pas vivre dans un état de guerre permanent, parce que dans ce cas, on peut, je veux dire, tout simplement, on se laverait pas le matin, on quitterait pas son lit, on pourrait pas penser à une carrière, à faire des études, pour les gens qui ont des enfants, leur avenir, etc. Ça devient ridicule si on se dit chaque jour en se levant que voilà, cet après-midi, on va être envahi par la Chine. C'est pas tenable.
Et ce n'est pas ce que font les Taïwanais.
Absolument. Et donc, qu'on soit Taïwanais ou qu'on soit, disons, amoureux de Taïwan et qu'on vive à Taïwan, on est en permanence dans cette dichotomie en se disant que oui, la guerre est possible. D'un autre côté, depuis 1949, qui est donc la date de la formation de la République populaire de Chine et disons le départ, en gros, du Kuomintang, une des forces à l'époque pendant la guerre civile sur l'île de Taïwan, Pékin annonce qu'ils vont reprendre Taïwan, qu'ils considèrent comme une partie intégrante de leur territoire chinois. Ça, c'est dans la logique chinoise officielle. Donc, il y a aussi une espèce d'accoutumance, une habitude. Ça fait depuis 49 qu'on nous dit qu'on va être envahi. C'est jamais arrivé. Donc, évidemment, ça ne va pas arriver. En même temps, ce que je note auprès de mes amis taïwanais, puisque évidemment, moi, je suis pas taïwanais, c'est que, par exemple, certains de mes amis, depuis 2 ou 3 ans, ils sélectionnent un membre de leur famille, mais dans le sens étendu. Donc, c'est des familles qui représentent plusieurs générations. Ça peut représenter, disons, un groupe de 20 à 30 personnes. Il y a une personne qui est envoyée au Japon, qui achète une maison, qui ouvre un compte en banque, dans une banque japonaise, et qui, disons, est le point de liaison au cas où.
Le plan B.
Voilà, le plan B, mais qui devient quand même très pratique, c'est-à-dire que la personne va vraiment au Japon. Le Taïwan est une ancienne colonie japonaise, donc les relations entre Taïwan et le Japon sont très très compliquées, mais en général positives pour la plupart des Taïwanais, pas pour tous. Donc les gens se disent qu'en cas d'invasion ou de blocus, on sait bien que le seul pays qui pourrait vraiment intervenir et changer la donne, c'est les États-Unis. Mais vu la gouvernance de Trump, et tout simplement mais la distance physique, je veux dire, c'est peu probable qu'il y ait une intervention, même s'il y a par exemple des bases américaines au Japon, qui est tout près, qui est juste au nord de l'île de Taïwan. Donc dans la pratique, les gens sont un peu laissés tout seuls à résoudre leurs problèmes.
On me dit aussi que ce genre de plan B est peut-être dans d'autres pays de la région, mais selon vous, c'est seulement au Japon ?
Je pense que c'est surtout au Japon parce qu'il y a ces relations historiques. Dans beaucoup de familles, les gens qui ont plus de 75 ans parlent encore japonais, puisqu'à l'époque, le système scolaire était uniquement japonais. Il n'y en avait pas en chinois mandarin. Et il y a vraiment, moi j'ai vécu dans beaucoup de pays en Asie et même en Europe. Et je pense que pour moi, Taïwan, c'est le seul cas que je connaisse où une ancienne colonie entretient des relations vraiment idéales, je dirais même idéalisées, avec la puissance coloniale.
C'est assez étonnant. D'ailleurs, fin octobre a été marquée la fin de l'époque japonaise et de la colonisation japonaise à Taïwan. Ça a été marqué tout à fait différemment à Pékin. Et alors, les communiqués qu'on a pu lire dans notamment l'agence de presse officielle Xinhua, le ton on commence à s'habituer au ton du Parti communiste chinois, mais c'est écrit noir sur blanc, je ne l'ai pas sous les yeux, mais la réunification est inévitable, c'est l'objectif principal et elle arrivera quoi qu'il en coûte. En gros, c'est ce qui est écrit noir sur blanc dans la dépêche.
C'est sûr que si on compare le discours de Pékin, le discours de Taipei par rapport au Japon, c'est vraiment des pôles opposés parce que Taïwan a été colonisé, il faut le dire, ça a été une vraie colonisation de 1895 à 1945, donc la première moitié du 20e siècle. Et comme dans tous les systèmes de colonisation, il y a aussi des aspects qui parfois sont considérés comme positifs, c'est à débattre. Mais par exemple, le fait, je pense que c'est ça qui est très important, de créer des infrastructures, de créer un système éducatif où les filles et les garçons étaient intégrés. Et il faut comprendre que dans la culture traditionnelle chinoise, pendant très longtemps, jusqu'à la fondation de la République populaire de Chine en 1949, 90% des Chinois étaient analphabètes. Parce que l'accès à la connaissance des caractères chinois était réservé aux élites. Et surtout, et bien sûr, dans les élites, uniquement aux hommes. Ça, c'était clair. Donc, le Japon qui a colonisé Taïwan a apporté la modernité. Et donc, évidemment, c'est jamais ni noir ni blanc. C'est toujours une zone grise. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, qu'il y a du bon et du mauvais. Et c'est pour ça que pour beaucoup de Taïwanais, c'est assez compliqué. En même temps, il y a eu des massacres, il y a eu de l'exploitation des ressources, ça a été une vraie forme de colonisation. Et beaucoup de Taïwanais, y compris des peuples aborigènes de Taïwan, qui ont été envoyés par l'armée impériale japonaise en Chine continentale, en Mongolie, en Asie du Sud-Est. Donc c'est un profond traumatisme. Mais par rapport au discours de Pékin, enfin le discours communiste de Pékin fonde sa respectabilité, on peut dire, sur justement l'opposition au Japon impérial.
Et fasciste,
voilà.
Mentionné.
Donc le discours de Pékin, c'est évidemment, on est anti-japonais puisqu'on a été aussi envahi et colonisé en partie par le Japon. Alors qu'à Taïwan, ce discours est beaucoup plus nuancé et les gens disent c'est compliqué. Et de toute façon, aujourd'hui, nous, on est avec le Japon, surtout par rapport à la Chine. Voilà, donc il faut bien comprendre ce triangle compliqué.
En même temps, juste après que ce 80e anniversaire de la fin de la colonisation japonaise, il y a eu la rencontre entre Donald Trump, dont vous parliez à l'instant, et Xi Jinping. Et la question de Taïwan lors de cette première rencontre n'a pas été évoquée du tout. Les réactions dans la presse taïwanaises sont assez circonspectes, méfiantes. On se dit que ce n'est pas bon signe. C'est ce que vous avez lu également ?
Je pense qu'il y a deux interprétations possibles. Si on est optimiste, on peut dire qu'en fait, c'est bien que Taïwan n'ait pas été mentionné. Ça veut dire que le statu quo ne change pas. Et qu'est-ce que c'est le statu quo? Bon, c'est très compliqué. On pourrait en parler pendant des heures parce qu'évidemment, il y a le point de vue chinois de Chine populaire, le point de vue taïwanais. Mais disons qu'aujourd'hui, pour aller vite, Taïwan est un État bien sûr indépendant, qui a son propre gouvernement, sa propre monnaie, sa propre armée. C'est la démocratie la plus avancée de toute l'Asie. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, il y a tout un tas de rapports et d'organisations internationales qui le prouvent, mais c'est un État qui n'est reconnu aujourd'hui que pratiquement par 13 pays, qui sont surtout de petites îles dans le Pacifique ou dans la Caraïbe. En Europe, le seul État qui reconnaît Taïwan, c'est le Vatican. Donc on voit bien ce que ça signifie, puisque en 45, tous les pays du monde reconnaissaient Taïwan comme représentant de la Chine, du gouvernement chinois. Et tout ça a changé dans les années 70. Et la Chine populaire, Pékin, a évidemment gagné la bataille diplomatique, puisque ce nombre d'alliés, qui est aujourd'hui à 13, diminue chaque année. Voilà. Donc il y a vraiment deux regards complètement contradictoires.
Ce qui est assez fascinant quand on regarde ce qui est d'actualité avec la reconnaissance officielle et comment certains États essaient de montrer leur puissance et leur activisme politique avec des reconnaissances d'autres pays. Là, on parle de Micronésie. Je crois que l'un des plus grands États qui reconnaît, c'est le Paraguay, si je ne m'abuse.
Voilà, c'est ça. Les pays qui reconnaissent Taïwan, évidemment, il y a aussi Haïti, par exemple, pour les pays francophones. Donc, pour en revenir à votre question, le fait que Taïwan n'ait pas été mentionné, ça peut être interprété, je pense que c'est une interprétation justifiable, en disant, on n'a pas parlé de Taïwan parce qu'on sait que c'est compliqué et qu'on a des avis différents entre les États-Unis et la Chine. Donc, ça peut être rassurant de ce point de vue, en disant, OK, on ne touche pas au statu quo. Les Taïwanais s'en accommode plus ou moins, les États-Unis comme ça n'ont pas besoin vraiment de changer la donne, et la Chine continue évidemment dans ce discours en disant que Taïwan faisait partie de la Chine impériale, donc il doit retourner à la Chine. C'est important de noter que la Chine populaire n'a jamais gouverné l'île de Taïwan jusqu'à aujourd'hui. Donc ce qu'ils appellent la province de Taïwan a fait partie de l'empire chinois au cours de l'histoire, mais n'a jamais été administrée, par exemple, par le régime actuel de Pékin. Ensuite, il y a la vision pessimiste, justement, qui dit que Trump, peut-être, en fait, va négocier un accord avec la Chine en disant « faisons fi de Taïwan, c'est trop compliqué, c'est un casse-tête ». Mais c'est pas si simple que ça, puisque c'est la question des semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs de très haute qualité, jusqu'à aujourd'hui, à 90%, sont fabriqués uniquement à Taïwan.
On en arrive très vite à l'acronyme TSMC, qui a encore et davantage aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, un savoir-faire inégalé. Peut-être inégalable, je ne sais pas, mais en tout cas, sur ces semi-conducteurs, un vrai trésor national. Certains emploient le mot dans la diplomatie taïwanaise de montagne magique qu'ils défendent.
De bouclier de silicone, enfin, il y a toutes ces expressions.
Exactement, Silicon Shield, c'est crucial dans cette affaire.
C'est tout à fait crucial au point de vue technologique et je pense au point de vue aussi psychologique. C'est important parce que c'est vraiment... Taïwan, c'est 23 millions de personnes. En face, la Chine, c'est 1,4 milliard à peu près. Donc évidemment, Taïwan n'a pas vraiment d'armes. Dépend beaucoup pour sa sécurité des États-Unis, un petit peu du Japon. Et donc, la seule alternative, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, des semi-conducteurs, en disant que les semi-conducteurs, en fait, c'est la seule arme taïwanaise. Et je pense que, quelque part, c'est vrai. Parce que, justement, c'est peut-être la seule raison pourquoi Trump, ou même les pays occidentaux, n'ont pas, pour le moment, abandonné Taïwan. Et c'est aussi lié aux relations tchéco-taïwanaises, puisque cette compagnie taïwanaise, TSMC, est en train de développer donc une usine de fabrication de certains semi-conducteurs, parce qu'il ne faut pas généraliser, je ne suis pas expert en semi-conducteurs, mais la chose que j'ai appris à Taïwan, c'est que justement il y a différentes qualités, différents niveaux de fabrication. Évidemment, tout le monde veut les meilleurs, qui sont les plus petites, les plus performantes, etc. Et celles-ci sont, comme je disais, fabriquées à 90% à Taïwan. Je dirais pas le problème, mais le défi, c'est que même si on veut exporter cette technologie, d'abord, il faut créer des conditions de pureté d'air, etc. Comme je disais, je suis pas expert, qui sont vraiment très compliquées. Donc, apparemment, il y aura une usine à Dresde, donc au sud de l'Allemagne, donc au nord de la République tchèque, et une partie, en fait, de cette usine ou de la sous-traitance devrait être dans les mains, justement, de la République tchèque.
Je voulais en arriver à cette relation importante tchéco-taïwanaise. Les Tchèques avaient caressé l'espoir que cette usine européenne puisse être à un moment sur le territoire tchèque. Finalement, c'est Dresde qui a été choisie par TSMC. Cette relation, elle est particulière. Alors, vu de Prague, on aurait eu tendance à se dire au début peut-être que les Tchèques en font un peu trop. Mais de ce que j'entends des Taïwanais aussi, c'est quelque chose d'important. C'est quand un Tchèque arrive à Taïwan, on lui fait remarquer immédiatement, on le remercie pour le soutien de son pays. C'est quelque chose que les Taïwanais apprécient à vraiment un haut niveau.
Oui, je pense qu'en fait, il n'y a pas, comme vous le disiez, il n'y a pas d'exagération, ni du côté taïwanais, ni du côté tchèque, sur cette relation qui est quand même assez récente, pour plusieurs raisons. Je dirais qu'il y a une raison historique qui est peut-être peu connue, surtout du côté tchèque, c'est qu'en fait, l'ex-Tchécoslovaquie et Taïwan sont arrivés à la démocratie pratiquement la même année. Donc la fin de la censure militaire à Taïwan, c'est 87, et donc le début de la presse libre, ensuite des élections, l'alternance politique. Et il y a aussi cette espèce de paradigme du David et Goliath, du petit pays démocratique qui lutte contre le grand méchant voisin, la Russie ou la Chine. Donc ça crée des sympathies, et c'est vrai qu'historiquement, évidemment, c'est des progressions historiques complètement différentes, des contextes historiques aussi très différents. Mais c'est vrai que ça crée une sympathie parce qu'on pense qu'on peut traverser le même parcours historique, politique et démocratique. Le deuxième aspect, c'est que vraiment, Taïwan est extrêmement isolé, comme je disais, reconnu uniquement par 13 pays. Et pendant très longtemps, y compris en République tchèque, on ne s'intéressait pas à Taïwan. Mais je pense que quelque part, c'est aussi la Chine qui a aidé, puisqu'ici, comme on se rappelle, il y avait de grands espoirs sur les investissements chinois, sur One Belt, One Road, qui devait créer beaucoup d'emplois. Et je cite toujours ce chiffre qui, je pense, bon, il faut le vérifier parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vérifié. Mais Taïwan a créé, en gros, à peu près 30 000 emplois en République tchèque. Donc, un pays de 23 millions qui vient dans un pays beaucoup plus petit de 10 millions crée plusieurs dizaines de milliers d'emplois. La Chine, puissance mondiale économique, on est tous d'accord, a peut-être créé 4 ou 5 000 emplois, a fait énormément de promesses au niveau des investissements, et ça s'est soldé surtout par des scandales de corruption. Et donc la Chine aujourd'hui a une image qui est quand même assez négative. Si vous allez aujourd'hui dans des bureaux de gouvernement régionaux où vous parlez à des entreprises pour une coopération économique, parce que moi je travaille parfois aussi comme interprète, si vous mentionnez la Chine, toutes les portes se ferment. Si vous dites Taïwan, toutes les portes s'ouvrent. Donc il y a vraiment ce rapport. Et le troisième élément qui, moi, me rend extrêmement optimiste, puisqu'on a un changement politique aussi en République tchèque, donc on n'est pas très sûr de l'avenir de cette relation au plus haut niveau politique. Ce qui me rend optimiste, c'est que les relations tchéco-taïwanaises sont présentes dans absolument tous les domaines et à tous les niveaux. Donc, c'est pas seulement de capitale à capitale ou d'État à État. C'est, moi, quand je suis à Taïwan, chaque semaine, j'ai un coup de fil, on me dit, tu sais qu'il y a une délégation, je sais pas, de Hradec Kralove qui passe à Taïwan, mais ils vont pas rester très longtemps à Taipei, ils vont dans une autre ville. Et alors, que ce soit la technologie, la politique, la culture, le sport, l'agriculture, enfin,
Tous les domaines,
il y a des relations personnelles entre des professionnels tchèques et taïwanais. Et ça, ça me rassure énormément parce que quel que soit le gouvernement en place et à Taïwan, puisqu'il peut y avoir aussi des changements, et en République tchèque, je pense que les gens ont vraiment créé des relations personnelles. Ils se respectent, ils se comprennent de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de malentendus, parce qu'évidemment, la mentalité, la culture tchèque et taïwanaise sont quand même assez éloignées. Mais il y a beaucoup de gens maintenant qui travaillent justement au milieu de ces relations et qui servent de pont culturel. Et vraiment, les gens comprennent que et la République tchèque a quelque chose à apporter à Taïwan, et Taïwan à la République tchèque. Donc je suis vraiment très optimiste, et c'est important. Là, la dernière chose que je vais rajouter, c'est qu'à Taïwan, tout le monde se rappelle du geste de la République tchèque qui avait envoyé des vaccins pendant la pandémie, alors que Taïwan avait envoyé aussi des masques. De nouveau, au niveau psychologique, au niveau de la perception des pays, quand moi je parle chinois, quand je suis dans un taxi, par exemple à Taipei, et les gens tout de suite me demandent d'où je viens puisque je parle chinois, et si je dis je viens de République tchèque, c'est tout de suite ah ! Et c'est vraiment c'est une réaction qu'on voit dans chaque situation, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un sentiment de respect, d'amitié. Et peut-être la dernière chose que je vais rajouter aussi, il ne faut pas oublier que la République tchèque, c'est aussi la plateforme pour Taïwan, pour apporter, par exemple, de l'aide humanitaire à l'Ukraine, puisque pour le moment, le gouvernement de Zelensky fait très attention à ne pas avoir de relations directes avec Taïwan. Donc vraiment, la République tchèque, c'est une plaque tournante pour Taïwan. Donc c'est pas uniquement la relation tchéco-taïwanaise. En fait, ça va au-delà. Ça va vers l'Europe centrale, y compris vers l'Ukraine. Et c'est pour ça que la République tchèque, sans exagérer, ça représente vraiment un partenaire important. Et la preuve, c'est que par exemple, le bureau de représentation taïwanais à Prague a pratiquement doublé ses effectifs, y compris au niveau culturel. Donc, il y a vraiment une prise de conscience que la relation tchéco-taïwanaise est absolument essentielle.
Sur l'Ukraine, d'ailleurs, je mentionnerai que fin octobre, ce bureau taïwanais a aidé la branche tchèque de l'armée du salut pour un projet destiné aux jeunes Ukrainiens qui sont réfugiés ici en Tchéquie. Et ce n'est pas le seul accord sur cette entraide à l'Ukraine entre Taïwan et la Tchéquie.